Bienvenue dans Info Campus sur Radio Mayuri Campus. Mon invité aujourd'hui est le docteur Michel Rapinski, chercheur en ethnobiologie au LESA, CNRS, l'Université de Guyane, IFREMER. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup, bonjour, avec plaisir.
Quelle est la définition de l'ethnobiologie pour commencer?
Eh bien, l'ethnobiologie, c'est une discipline interdisciplinaire, si on peut dire. C'est un champ d'étude qui est au croisé de l'anthropologie et de la biologie. Donc, pour donner une définition qui est relativement simple, on peut parler de tout ce qui est relation entre humains, hommes humains et son environnement, la nature, la biologie.
D'accord. Alors, vous avez étudié la situation guyanaise et canadienne dans la gestion individuelle et collective du diabète au sein des populations autochtones. Qu'en est-il ressorti?
Qu'en est-il ressorti? Eh bien, déjà, les stratégies sont très différentes entre la Guyane et le Québec. Déjà, les stratégies individuelles sont différentes parce que les gens n'ont pas accès aux mêmes ressources, que ce soit les ressources environnementales, si on veut parler, par exemple, de l'utilisation des médecines locales qui sont tirées de l'environnement. On ne parle pas des mêmes forêts. On a des forêts boréales, beaucoup d'épinettes au Québec. Lorsqu'en Guyane, c'est des forêts tropicales, donc on n'est pas tout doux sur les mêmes espèces, que ce soit végétales ou animales. Mais il y a aussi une différence d'accès aux ressources, au-delà des ressources environnementales, mais au niveau de l'organisation locale, politique, des groupes avec lesquels j'ai travaillé, sont très différentes. Donc, pour en illustrer un exemple bien simple, au Québec, les peuples autochtones qu'on appelle les Premières Nations ont des conseils de bande. Et donc, ils ont des gouvernements localisés avec des représentants de leur communauté.
Et, l'organisation sociale.
Pardon?
L'organisation sociale, oui.
Voilà, est très différente. Après ça, il y a toute une historique politique derrière ça. Mais le résultat fait en sorte que les Premières Nations ont une partie prise justement dans l'administration et la gestion de leurs services de santé. Ce qui fait en sorte qu'ils ont... Ils ont l'espace à travailler pour essayer d'intégrer des concepts de la médecine dans leur service de santé.
Vos études doctorales ont été réalisées en co-tutelle avec l'Université de Montréal et l'Université de Guyane en vue de l'obtention d'un doctorat en sciences biologiques ainsi qu'en sciences de la vie et de la santé, respectivement. Lors de cette conférence que vous avez donnée à l'Université de Guyane, vous avez présenté vos travaux de thèse qui ont été menés au croisement de l'interculturalité et de l'interdisciplinarité et qui ont été encadrés par l'IRBV. Qu'est-ce que c'est l'IRBV?
Donc l'IRBV, c'est un acronyme, bien entendu. Ça correspond à l'Institut de recherche en biologie végétale. Donc, comme vous l'avez bien dit, j'ai fait une co-tutelle avec l'Université de Montréal. Et l'Université de Montréal a un institut de recherche en collaboration avec le Jardin botanique de Montréal. Donc cet institut de recherche s'appelle l'Institut de recherche en biologie végétale. Et donc, comme en Guyane, par exemple, on a le LEISA qui forme des collaborations entre l'Université de Guyane et le CNRS, eh bien, c'est un peu le même concept pour former une collaboration entre plusieurs instituts. Et donc, mon directeur de recherche au Québec, c'est un botaniste au Jardin botanique de Montréal. Donc, ça, c'est le docteur Alain Curie. Alors que mon directeur en Guyane, il travaille justement, monsieur le docteur Damien David travaille pour le CNRS. Donc ça, quand on parle au croisement des disciplines, l'IRBV vient apporter une soutenance et un cadre botanique dans des instituts de recherche académique au Québec et avec le Jardin botanique. Alors qu'ici, j'ai un encadrement plutôt qui sort du domaine anthropologique.
En réalisant cette thèse, qu'est-ce que vous avez cherché à démontrer? Qu'est-ce que vous avez voulu démontrer?
Mais déjà, j'ai voulu démontrer que la définition de ce qu'on peut dire la médecine traditionnelle est quand même très complexe. Donc, quand on parle des médecines traditionnelles, ou moi j'aime plutôt dire les médecines locales, parce que, pardonnez-moi, pour éviter de placer les médecines traditionnelles dans une intemporalité ou quelque chose qui date d'antan, je voulais démontrer que ces médecines locales sont très actives. Et qu'elles n'ont pas des définitions simples. Donc, Je sais que plusieurs personnes vont souvent penser aux plantes médicinales quand on parle des médecines locales ou des médecines traditionnelles. Et en fait, quand il y a aussi beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu dans ces systèmes médicinaux. Ici même en Guyane, on a des utilisations animales. Et au Québec, par exemple, c'est très prenant, c'est très présent justement cette utilisation des médecines animales. Mais ensuite, il y a aussi des concepts qui s'élargissent à plus que du simple, à plus que des simples ressources naturelles. Donc, chez les Cri Lisinou, auprès de qui j'ai travaillé au Québec, on est vraiment dans des concepts holistiques où on va chercher un équilibre entre différents aspects de la personne. Donc, souvent, on va parler de d'aspect spirituel, émotionnel, mental et physique. Et pour maintenir cet équilibre, certes, il y a l'utilisation justement des plantes médicinales, mais il y a aussi des activités. L'occupation du territoire est très importante pour mettre les gens en communion avec le territoire. Et donc, le simple fait d'être en forêt, par exemple, peut être perçu aussi comme de la médecine. Le fait de pratiquer ses coutumes, que ce soit la chasse ou la pêche, que ce soit la cueillette, ça aussi, ça peut être interprété comme une forme de médecine. Et donc, c'est pour ça que le territoire est un... que je me souligne dans le titre de la conférence. Le territoire a une place très importante à jouer, non seulement en termes d'endroits où les gens vont aller ramasser leur médecine, mais aussi en termes de médecine en soi.
Quel est le lien, le rapport avec le diabète?
Eh bien, le lien est en fait très... quand on y pense, il est quand même assez évident. Parce que quand on parle de diabète, on va souvent parler de changement du mode de vie. Et on va parler de sédentarisation. Donc,
est-ce que c'est la seule cause?
Alors, en fait, quand les causes du diabète sont multifactorielles, on ne peut pas cibler une cause spécifique. Il y en a qui vont parler d'aspects génétiques à la maladie, ce qui existe. Mais après ça, il y a tout un contexte environnemental qui encadre la personne. Et donc, dans un contexte qu'on peut appeler, disons, diabétogène, un environnement qui va favoriser le diabète, on va souvent parler d'un environnement où il y a une réduction d'exercice physique et une alimentation qui est riche en énergie, mais qui n'est pas dépensée. Alors c'est pour ça, quand on parle de sédentarisation et quand on parle de changement alimentaire, ça nous ramène beaucoup au territoire, parce que la sédentarisation nous éloigne du territoire. Si on retourne dans le contexte guyanais, la sédentarisation veut dire qu'on a, pour les palicours par exemple, qu'on a un moins bon accès à de l'espace pour faire la bâtie. Et la bâtie, c'est un endroit où on va faire pousser du manioc qui va venir alimenter les individus et leurs familles. Alors, ce qui veut dire que sans cet accès à la bâtie, eh bien, maintenant, on a un moins bon accès à une nourriture qu'on peut produire nous-mêmes ou à une nourriture qu'on peut aller chercher en forêt, parce que la bâtie nous rapproche aussi justement de la forêt. Et donc, avec cette cassure ou cette séparation qui se fait avec l'environnement, avec le territoire, eh bien, dans un milieu sédentarisé, on va à la chasse au dépanneur, au 8 à 8 par exemple. C'est là qu'on va chercher ses aliments, c'est là qu'on va chercher sa viande. Et souvent, on a un accès à un aliment qui est hautement raffiné, hautement transformé, et pauvre en nutriments, mais riche en énergie. Alors, c'est là que le territoire vient se lier au diabète, parce que lorsqu'on occupe le territoire, on bouge aussi beaucoup. Quand on va à la chasse, quand on va à la pêche, veut pas, il y a un exercice physique qui est impliqué. Quand on va à la bâtie, on travaille beaucoup, donc il y a un exercice physique. Et cette occupation du territoire va nous permettre justement de maintenir des saines habitudes de vie. Alors que, avec les changements de vie que tout le monde vit, hein. D'ailleurs, au 21e siècle, au 20e siècle, c'est pas que les peuples autochtones, mais c'est tout le monde en général. Et bien, cette déconnexion au territoire, ce qu'on peut dire, pour moi, c'est une cause, c'est un, pas une cause, mais un facteur qui joue beaucoup dans le diabète.
Et pourquoi vous avez choisi de focaliser, de porter cette étude sur les peuples autochtones, justement?
Eh bien, ça commence avec un concours de circonstances. Quand j'étais, j'ai fait mes études au Canada, au Québec, quand j'ai fait ce qu'on appelle le bac chez nous, c'est ce qu'on appelle la licence en France. Je m'étais beaucoup intéressé en botanique et j'ai été à une conférence d'un ethnobotaniste qui est le docteur Alain Curie, qui est devenu plus tard mon directeur de thèse. Et à ce moment-là, j'ai appris qu'on pouvait justement travailler dans un contexte botanique, mais en échangeant avec les gens et en partageant des savoirs et avoir des rencontres puis des échanges qui sont vraiment phénoménales. Et donc, quand on fait de l'ethnobotanique, on est beaucoup dans le partage et tout ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai été introduit à un projet sur le diabète. Donc avant 2010, parce qu'en 2010 j'ai commencé mes études de maîtrise, et avant 2010 j'avais aucun intérêt sur le diabète, et j'ai été greffé à un projet de master, comme on dirait en France. Mm-hmm. Et à ce moment-là j'ai réalisé à quel point le diabète c'était une maladie qui est omniprésente. Quand on regarde les chiffres et les statistiques, on réalise que le diabète, on peut la décrire d'une pandémie. Ça touche près d'une personne sur 10 à travers le monde. Il y a des inéquités géographiques, il y a des inéquités régionales, il y a aussi des inéquités populationnelles. Donc, chez les Premières Nations au Canada, on sait qu'il y a de 3 à 5 fois plus de diabète auprès de cette population que dans la population générale. Alors, ça m'a fait, personnellement, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup marqué. Mm-hmm. Et on peut dire qu'il y a peut-être un petit côté, peut-être militant et social, de vouloir réduire ces inéquités pour que, justement, bon, qu'il y ait moins de diabète, si on peut dire.
Tout à fait. Quelles sont les méthodes que vous avez utilisées pour réaliser cette étude, réaliser cette thèse?
Eh bien, ça commence beaucoup avec des entretiens. Il s'agit d'aller auprès des gens et de leur demander s'ils veulent participer à une étude sur le diabète. Et pour rencontrer les gens, il faut rencontrer déjà les chefs coutumiers. Ici en Guyane, c'est les chefs coutumiers qu'on rencontre. On explique le projet. Au Québec, il y a d'autres processus auprès des Premières Nations de révision. Mais une fois qu'on a l'accord, on va auprès des gens et on procède par entretien. Donc moi, j'avais des entretiens qu'on dit semi-dirigés, avec des questions ouvertes qui vont permettre la discussion, et la discussion sur le diabète. Et les questions touchaient justement l'origine du diabète, comment les gens percevaient cette maladie, comment on l'expliquait avant, comment on l'explique maintenant, les causes perçues, et après ça aussi, les manières dont les gens vont, les stratégies qu'ils utilisent pour se soigner. Et dans le cas de cette thèse, on a beaucoup parlé d'alimentation, autant qu'on a parlé des médecines traditionnelles, dans le sens des plantes médicinales et tout ça. Et après ça, il faut certainement avoir un certain background, si on peut dire, mm-hmm. une certaine base en botanique, parce que lorsqu'on nous parle de plantes, souvent on nous parle des plantes dans les langues de chacune. Alors, moi, en tant que botaniste, je connais les noms scientifiques. Mais après ça, quand je parle à quelqu'un qui est païkoné, palikour, il va me dire le nom peut-être en palikour, en païkwaki, ou bien il va me le dire en créole. Alors là, il y a un travail de détective, d'essayer de figurer quelle est la plante dont on nous parle. Et pour ça, ça demande quand même une base en botanique.
Et l'approche thérapeutique de ces population est-elle basée principalement justement sur les plantes, la médecine, cette fameuse médecine traditionnelle dont vous parliez en début d'entretien?
Eh bien, ça dépend vraiment des peuples, si je peux dire. En Guyane française, ici avec donc j'ai fait mon travail auprès des palikours, et on m'a beaucoup parlé justement des médecines à base végétale, donc les plantes médicinales. Ensuite, il y a eu, on a parlé beaucoup d'alimentation, donc les gens aussi vont se soigner et vont aussi
modifier
leur alimentation.
D'accord.
Pour avoir une meilleure gestion, un contrôle de la glycémie.
Ok.
Alors qu'au Québec, quand on parle aux personnes Cri et aux personnes Innu, donc les Cri, les Innu sont les peuples auprès desquels j'ai travaillé au Québec. Eh bien, il y a l'utilisation des plantes médicinales, mais il y a aussi l'utilisation des animaux médicinaux. Il y en a beaucoup.
Okay.
L'alimentation en soi est considérée comme une médecine. Donc, manger Des myrtilles, par exemple, c'est une médecine, tant bien que c'est une alimentation. Et après ça, il y a aussi cette relation au territoire. Donc, on va aussi soigner le diabète en allant sur le territoire.
D'accord. Et la prise en charge de ces populations, indépendamment des pays, la Guyane française ou le Canada, qu'avez-vous décelé ? Qu'est-ce qu'on peut retenir ?
Eh bien, c'est pas évident parce que le diabète, c'est quand même une maladie qui est très complexe. Il y a beaucoup d'éléments qui jouent. Il y a des éléments culturels, il y a des éléments historiques. Avec l'ethnomédecine et l'ethnobiologie, on essaie de voir comment on peut prendre en compte les éléments culturels. Si on prend le cas de la Guyane, où il y a une très forte consommation de couac, par exemple, eh bien, il faut travailler autour de ça. Il y a tout un travail à essayer de prendre en compte justement l'alimentation locale. De prendre en compte, par exemple, lorsqu'on parle de légumes, si on est formé à l'extérieur de la Guyane française, souvent on va penser à des légumes en tant que des légumes verts, la laitue, les concombres, par exemple. Alors qu'ici, on va souvent parler de légumes pays. Alors, il y a aussi ces différences de langage à prendre en compte, que lorsqu'on parle de légumes, on a peut-être différentes choses en tête. Alors, de travailler autour du couac, par exemple, c'est un truc qui est beaucoup ressorti durant mes études, durant mes discussions avec les palicours, l'importance du couac dans l'alimentation et l'interprétation du discours que les gens reçoivent concernant le couac des médecins. Et le couac, c'est tellement un aspect identitaire que le discours qu'on a autour, il faut faire très attention pour pas qu'il soit interprété comme une attaque envers la culture et l'identité de la personne. Alors, chez les palicours, par exemple, il y a des gens qui se sont mis à modifier légèrement la fabrication du couac, ce qu'ils appellent un couac acide, avec l'effet que ça soit plus facile de gérer son diabète, que ça soit plus facile sur la glycémie de manger un couac acide vis-à-vis un couac sucré. Après ça, les gens ont tendance à se piquer pour prendre le sang, pour vérifier la glycémie. Et c'est comme ça qu'ils viennent juger si justement les choix alimentaires, ce couac acide, ce couac sucré, vient justement aider avec leur contrôle de la glycémie. Mais on voit déjà que les gens sont prenants dans leur maladie. Ils observent beaucoup ce qu'ils mangent, ce qu'ils consomment, l'effet que ça a sur les glycémies, et ils font des choix là-dessus. Et ça, je pense que c'est très important de miser là-dessus quand on est sur la prise en charge, de travailler justement avec ce que les personnes font comme stratégie, parce que l'utilisation du glucomètre, c'est vraiment l'outil le plus utile pour l'autogestion de sa maladie.
Et d'un point de vue gouvernemental, que peut-on dire sur les différentes politiques de prise en charge au Canada et en Guyane, donc en France?
Eh bien, il y a beaucoup de choses à dire, en fait. Il y a énormément de choses à dire. Déjà, on est dans deux systèmes politiques qui sont très différents, et ça a un impact, justement, sur le système de santé.
Bien sûr.
En France, par exemple, on est sur des idéologies politiques de la République, donc une France unie, et le système de santé que les gens vont accéder, c'est un système de santé qui est aussi unique, dans le sens que tous les Français ont accès essentiellement, en principe, au même système de santé. Alors qu'au Canada, on est sur un système politique de confédération, on est sur un système de division de pouvoir, de partage des pouvoirs, et c'est chaque province qui fait son propre système de santé. Et en plus de ça, on a aussi une reconnaissance de ce qu'on appelle le titre autochtone au Québec. Et donc ça remonte à loin, ça remonte aux années 1700, avec la proclamation royale, où le roi George III a reconnu justement le droit des peuples autochtones de pouvoir négocier la sécession des terres avec la couronne. Et ça a été interprété comme une reconnaissance du titre et du droit autochtone. Et c'est souvent sur cette base-là qu'on les Premières Nations vont faire l'argument de justement la reconnaissance de leurs droits. Et l'implication que ça a dans le système de santé, c'est que ça leur permet justement d'accéder à des droits d'autogestion et de détermination dans leur système de santé. Alors, ça fait en sorte qu'on a des systèmes de santé qui sont très, très différents dans l'accès. Et c'est qui gère le système de santé et c'est qui l'offre.
Ok. Et alors, en quoi votre thèse, monsieur... Alors... oui, Michel Rapinski, va-t-elle pouvoir aider les professionnels de santé dans le contact qu'ils ont avec ces patients, ces malades du diabète? Qu'est-ce que cette étude va pouvoir en fait changer dans la façon d'approcher, de considérer ces diabétiques?
Alors là, c'est une très bonne question, parce que le changement se fait quand même très lentement.
Oui.
Déjà, je pense que de souligner que le diabète est une maladie qui est quand même présente en Guyane et qui demande de l'attention.
Tout à fait.
C'est déjà une première chose. Je sais qu'en Guyane, il y a beaucoup de travail qui est fait dans tout le secteur de la santé autour du paludisme et du VIH, qui sont des maladies qui sont quand même graves et très importantes. Mais je trouve qu'à travers tout ça, on éclipse un peu la présence du diabète. Mmh. Au final, je pense que c'est un problème de santé en Guyane qui mérite plus d'attention, qui mérite d'y apporter beaucoup plus de ressources, que ce soit des ressources financières pour créer des programmes qui perdurent, pour former du personnel de santé sur place, qui est bien adapté, qui sont bien familiers avec le milieu. J'espère que ce travail peut mener à ça, dans un sens, d'éclairer le fait qu'en fin de compte, le diabète est quand même une maladie qui est très importante et qui mérite plus d'attention qu'on lui donne.
Il n'y a pas vraiment de fait, je dirais, que l'on pourrait au fait mettre à profit dans la façon de considérer, dans la façon de soigner, dans la façon peut-être d'éduquer, dans la façon également de mobiliser les traitements pour justement améliorer, diminuer le nombre de diabétiques au niveau du territoire. Vous n'êtes pas que dans la vulgarisation à travers cette thèse, en gros, c'est ce que je souhaite savoir.
Effectivement, c'est l'une des raisons pour laquelle, quand j'ai fait mes entretiens avec aussi des personnes qui travaillent dans le secteur de la santé. Donc, j'ai fait mes entretiens aussi auprès de médecins, d'infirmiers qui travaillent en Guyane, justement pour avoir une idée de leur perception de ces maladies et comment ça se présente ici en Guyane. Je pense que c'est des discussions qui ont été très importantes depuis mon dernier passage en Guyane en 2019. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises sur pied. Je vois dans les nouvelles, dans les médias, qu'il y a du mouvement autour du diabète, qu'il y a vraiment une prise de conscience au sujet de ces maladies en Guyane.
C'est ce que vous avez voulu provoquer?
Ben, je ne vais pas dire que j'ai provoqué ça. C'est quelque chose que je constate depuis mon... parce que j'ai commencé mes premières enquêtes en 2017 et en 2017, de ce que je comprends, on n'en avait pas tant sur le dossier du diabète en Guyane. Et je vois que depuis il y a des médecins au char qui travaillent là-dessus, donc il y a des choses qui montent et je trouve que c'est une chose fantastique. Après ça, est-ce que c'est moi qui ai provoqué ça? Je ne peux pas dire ça. Après ça, quand vous parliez d'éducation, je pense que là, il y a tout un travail d'éducation qui est très important. Et il y a par exemple, ce qui se fait en Guyane, qui ne se fait pas tant au Québec, c'est l'éducation thérapeutique du patient. Et là, je pense que c'est un milieu qui est très important et très pertinent, justement, pour l'éducation de la maladie, du diabète, et de travailler justement avec les gens et avec ce qu'ils ont à leur disponibilité.
Alors, de façon plus factuelle et plus pragmatique, depuis la soutenance de votre thèse, qu'est-ce que quelle va être la révolution, je dirais, pour aussi bien les patients, les professionnels de santé, la révolution, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, comment vous utilisez beaucoup ce terme qui est le bien-être.
Oui.
Comment, grâce à la thèse de M. Michel Rapinski, la vie des diabétiques va considérablement évoluer, changer et peut-être faciliter le travail des professionnels de santé. Allez-y, convainquez-nous.
Oh, voilà. Bien, déjà, le bien-être, c'est qu'on est au-delà de tout simplement le traitement physique de la personne. Donc, les seuils de glycémie sont ce qu'on on va beaucoup cibler quand on traite le diabète. Et quand la glycémie est bonne, on est content. Mais par contre, le diabète, c'est quand même une maladie qu'on va porter pour la plupart des personnes. On va porter cette maladie pour le reste de notre vie. Alors, d'avoir une glycémie équilibrée, c'est bien. Mais après ça, de pouvoir se sentir bien, pouvoir aussi manger les choses qu'on aime, de pouvoir voilà, vivre une vie qui est
équilibrée, oui.
Équilibrée et tout ça, ben c'est plus que tout simplement les seuils de glycémie. Et j'entends souvent dans les discours des gens qu'il y a beaucoup de restrictions alimentaires et tout ça. Et après ça, il y a plein de discours autour du couac. C'est quand même le
féculent.
Féculent, mais c'est la base de l'alimentation.
Riche.
Oui. Alors comment est-ce qu'on fait autour du couac? Eh bien, les gens ont besoin de manger ce qu'ils ont besoin de manger aussi. Alors, je pense qu'avec une éducation qui est très importante. On peut travailler sur c'est quoi le contrôle de la glycémie, comment on fait pour contrôler cette glycémie, parce qu'avec une glycémie qui est bien contrôlée.
Et ça, vous l'expliquez dans votre thèse?
Eh bien, je l'explique, oui, en partie dans ma thèse. Je l'explique aussi en faisant ma restitution auprès des gens.
D'accord.
De l'importance de la glycémie, c'est quoi une hyperglycémie, c'est quoi une hypoglycémie, parce qu'il y a aussi des distinctions à faire.
Bien sûr.
Souvent, quand on parle de diabète, on va souvent penser au fait qu'il y a trop de sucre dans le sang. Mais l'effet contraire peut avoir lieu quand les gens prennent leur remède. Il y a des choses qui sont connues, comme le Sorosi, qui sont hypoglycémiants, avec des cas qui ont été enregistrés, même publiés par un article qui date des années 1980, un article du Char qui parle de gens qui rentrent en coma hypoglycémiant parce qu'ils ont consommé trop de Sorosi. Alors, il y a ça aussi qui rentre en jeu. Alors, comment est-ce qu'on peut aider la personne à être autonome, justement, dans sa gestion de la maladie? Je pense que ça tourne autour du dialogue. Le dialogue est très important dans une maladie qui est très personnelle, parce que c'est pas chaque personne qui vit son diabète de la même manière. C'est pour ça que le bien-être est très, très important. Je parle d'un exemple tout simplement. Et c'est pour illustrer l'exemple, l'importance du dialogue. Mmh. Quelqu'un qui me racontait qu'il avait la misère avec l'infirmier qui venait lui donner son injection, parce qu'il essayait d'expliquer à l'infirmier que ce jour-là, il allait à la bâtie, travailler à la bâtie, et qu'il n'avait pas besoin de sa dose normale d'insuline. Mmh. Avec la barrière de langue, eh bien, l'infirmier n'a pas compris, il lui a donné sa dose normale. La personne est allée travailler à la bâtie en me disant qu'il est presque mort ce jour-là, parce que sa glycémie a chuté trop, beaucoup ouais. trop avec la combinaison d'exercices physiques. Alors ce dialogue, il est absolument important, parce que les gens aussi sont acteurs de leur maladie, ils essaient de comprendre la maladie, ils essaient de comprendre comment ça se fait, certaines choses qu'ils vont manger vont faire monter la glycémie ou baisser, certaines activités physiques vont monter ou baisser. Et au final, ce qu'on souhaite pour quelqu'un qui va porter cette maladie pour le reste de sa vie, c'est que cette personne soit vraiment prenante, soit vraiment acteur de sa maladie et se prenne en charge dans sa guérison. Alors, pour aider la personne à utiliser les outils qu'elle a autour de lui, comme le glucomètre, pour l'aider à comprendre l'effet de son alimentation sur sa glycémie, pour l'aider à comprendre qu'est-ce qui arrive lorsqu'il consomme ses remèdes à lui et que ça a un impact sur sa glycémie, ça demande du dialogue.
Okay.
Ça demande de reconnaître que ces pratiques sont vivantes et ça demande beaucoup de dialogue et de confiance.
Oui. Il y aura une suite à cette thèse?
Eh bien, le travail n'est jamais fini. En ce moment, le travail que j'ai fait, c'est un travail de restitution, de partager les résultats avec les personnes que j'ai interviewées, Après ça, ce que j'espère pouvoir faire, c'est continuer à collaborer, mais commencer après une thèse, il faut trouver du travail. Et donc là, je suis en optique de postdoc. Et ça, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner en termes de la continuité de ces travaux.
Allez-y.
Mais ce que j'espère, c'est qu'au moins ce message du dialogue va peut-être résonner.
Parfait. La situation guyanaise et canadienne dans la gestion individuelle et collective du diabète au sein des populations autochtones, c'est le titre de l'étude que vous avez réalisée. Le docteur Michel Rapinski, je rappelle que vous êtes chercheur en ethnobiologie au LESA, CNRS UG Ifremer. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, puis merci pour ces éclairages sur la prise en charge du diabète. À très bientôt.
Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire, donc j'espère que j'ai répondu à toutes les questions.
En tout cas, ça m'aura permis d'apprendre, d'ouvrir de nouveaux volets sur cette maladie. Merci encore une fois et à bientôt.
Merci beaucoup à vous.
Au revoir.
Au revoir.